Radio Capi, Grand Témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Élisée Dibanja-Teza. Elle est femme politique, militante de droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance. Elle est aussi députée honoraire. Madame Dibanja, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous en prie.
Mois de mars, honneur aux femmes, Madame Élisée Dibanja est avec nous dans ce studio pour parler du combat qu'elle a mené pour l'émancipation, la participation des femmes dans la vie politique de la RDC. Madame Élisée Dibanja, on va commencer par une petite biographie de vous. Vous êtes née à Kisangani.
Évidemment.
En quelle année?
65.
Et c'est à Kisangani où vous avez passé votre enfance, où vous avez grandi, où vous avez étudié?
Exactement. J'ai étudié au collège Champagnat. Institut Champagnat à l'époque, maintenant c'est Mwangaza. J'ai étudié aussi au lycée Mapendano jusqu'à avoir mon diplôme d'état et c'est après cela que je suis venue à Kinshasa pour faire l'ISTI qui est devenu l'IFASIC aujourd'hui parce que mon rêve c'était de devenir journaliste et être suivi par les ondes à travers le monde comme Elisabeth Monarque à l'époque qui était mon idole sur la voie de l'Amérique.
Et c'est elle qui vous a poussé à faire le journalisme, à vouloir devenir journaliste?
Elle m'a stimulé beaucoup mais en même temps il y a mon oncle aussi Monsieur Dimancha Wimbi qui m'a aussi poussé à y aller parce que au début il faut dire que mes parents n'y croyaient pas, ils voulaient pas, ils se demandaient c'est quoi ça encore comme métier. Mon père me voyait expert comptable parce que j'étais très très forte en comptabilité aux humanités et il me disait,
vous avez fait quelles études?
Je fais les études commerciales et administratives. Alors mon père se disait mais tu vas être expert comptable, travailler dans une banque c'est plus respectueux, c'est responsable. Mais moi je disais non papa, tu sais quand on écoute les informations tous les deux là à 18h, il y a une dame qui parle Elisabeth Monarque, alors moi je voudrais qu'à travers le monde aussi on dise Elisabeth Dimanja un jour, pourquoi pas? Elle me dit, mais c'est quoi ça comme boulot que tu imagines? Alors, quand mon oncle il a fait l'ISTI, il a terminé, il a commencé à passer sur les ondes, non seulement de la radio, mais
l'écran
de la télévision.
Nationale.
Et oui, il a dit, non, il faut la laisser faire, c'est un bon boulot, il faut la soutenir, et celui-là, je vais l'encadrer. Alors, mes parents ont fini par dire oui.
Et c'est comme ça que vous êtes venu faire vos études.
Exact.
L'ISTI
à l'époque. Ouais, et j'ai terminé ma licence en 90.
Diplômé en journalisme, quelle option?
Politique internationale. Et critique littéraire.
Après vos études, vous avez travaillé à la Radio-Télévision Nationale?
J'ai travaillé à La Voix des Aïrs à l'époque, aux RT, mais je travaillais aussi à la Primature. Et finalement, je quittais pour embrasser les ONG. C'était d'abord les ONG de développement. Mais on s'est rendu compte que le développement sans la démocratie, ce n'était pas possible. On s'est engagé dans le combat pour la démocratie et la gouvernance pour pouvoir mieux asseoir le développement. Et on s'est rendu compte que en se battant pour la démocratie et la gouvernance, il y avait des questions des droits de l'homme qu'il fallait aussi regarder de très près. Comme ça que je me suis retrouvée dans les questions de gouvernance et de démocratie. Et la guerre a commencé. C'était en 96 à l'est du pays. Et là, je me suis engagée dans la lutte pour la paix durable en RDC avec la campagne nationale qui était pilotée par le Conseil national des jeunes et des développements.
Mais pourquoi vous n'avez pas voulu faire ce combat en restant dans les institutions nationales?
C'est parce qu'il y avait un problème d'expression. La libre expression n'était pas garantie dans les institutions. Alors, je préférais la société civile parce que là, j'avais la liberté d'expression. Je m'exprimais et je faisais passer mes idées dans la mesure du possible si elles étaient convaincantes et bien argumentées. Je dois dire que je suis très, très attachée à ma liberté, à mon indépendance que pour rien.
Est-ce que vous étiez vraiment indépendante au sein de la société civile? Est-ce que les femmes ont leur accordé la parole? Parce qu'ils ont
son
problème, est-ce qu'on tenait compte de leurs propositions, leur analyse?
Exactement. Parce que la société civile, c'est l'endroit par excellence où a commencé l'exercice démocratique dans notre pays, il faut le dire. Le combat de la démocratie dans notre pays a commencé avec la participation de la société civile dès le départ. Lorsque les 13 parlementaires ont lancé leur mouvement, à un moment donné, ils ont été essoufflés à cause des arrestations, des brimades qu'ils ont connues et tout. Et la société civile a pris la relève. À tous les niveaux de la société civile, c'est situé au niveau de la base, de la femme rurale, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, la société civile était organisée. Et c'était les lieux par excellence où on s'exerçait à la liberté d'expression, à la démocratie, à la bonne gouvernance. Et les femmes faisaient partie intégrante de ces mouvements-là qui montaient en flèche pour faire entendre les aspirations de la population.
Et de la société civile, vous vous retrouvez en politique.
Exactement.
Expliquez-nous ce passage. Est-ce que la société civile, c'est un tremplin pour faire la politique?
Non, je ne sais pas pour d'autres, mais pour moi, je dirais que ça n'a pas été un tremplin. Parce que mon ambition n'était pas de faire la politique. Mon ambition était de continuer la lutte.
Et comment vous vous retrouvez dedans?
Je vous ai dit qu'on est parti d'étape en étape, les développements. Et puis on a dit non, il faut la démocratie, il faut la bonne gouvernance, il faut le droit de l'homme. Et puis il y a eu la paix. Lorsque nous avons commencé à militer pour le mouvement en faveur de la paix dans notre pays, il y a eu une frange de la population qui n'a pas été représentée dans les négociations qui se tenaient en ce moment-là sur notre pays à l'extérieur, que ce soit à Addis Abeba en Afrique du Sud. Et moi, je revenais des États-Unis où je venais de suivre une formation. J'ai dit non, les femmes ne sont pas représentées. Nous sommes les principales victimes quand il y a la guerre sur les terrains. Maintenant, nos bourreaux vont négocier et nous, nous ne sommes pas là. Il faut que nous soyons là-bas. Alors, j'ai commencé un programme avec les WOPA, Women as Partners for Peace in Africa. J'étais la coordonnatrice des WOPA. C'est un grand mouvement qui a amené des femmes à Sun City au dialogue intercongolais. Beaucoup peuvent ne pas le reconnaître, mais celles qui sont sincères sauront que le projet qui a amené les femmes, c'était le projet des WOPA que moi je pilotais et que j'avais initié. Nous avons eu la formation sur la paix. Nous avons eu les cahiers des charges de la femme à Nairobi avec NPI, Nairobi Peace Initiative. Nous avons été accompagnés par l'Union africaine. Nous avons été accompagnés par FAS, Femmes Africa Solidarité. La première fois que FAS est venue au Congo, c'était à mon initiative. C'est moi qui le fais inviter ici. Le comité africain de femmes, c'était sur le projet de WOPA toujours parce que nous sommes allés à l'Union africaine à l'époque, au UA, pour introduire notre demande et dire que nous, les femmes, vous venez de signer des accords pour dire que les femmes doivent faire partie du processus de paix, mais en RDC, nous, les femmes, nous ne nous retrouvons pas. Alors, ils m'ont mis en contact avec le comité africain des femmes, et le comité africain des femmes, à ce moment-là, le secrétariat était assuré par Femmes Africa Solidarité. Et c'est comme ça que j'ai contacté Madame Binta, je lui ai montré notre projet, elle a dit, ok, d'accord, on va se mobiliser autour de ça. Nous avons eu le financement de la coopération suisse, très importante, la coopération canadienne, l'UNIFEM. Je suis allé jusqu'aux Nations Unies pour dire à Kofi Annan et son représentant, M. Ibrahim Fall à l'époque, pour lui dire, dans le processus de paix en RDC, les femmes ne sont pas là.
Elles sont exclues.
Elles sont exclues. Et nous avons commencé avec d'autres collègues, dont Mme F. Bazaïba, Mme Rose Mutombo, il y avait beaucoup de femmes, Liliane Kalambay, Evelyne Bata, Mme Elise Mouimouzi, Mme Madi Kalala et tout, à se mobiliser pour dire que nous voulons être partie prenante à ces processus de paix, parce que c'est nous les grandes victimes sur le terrain, vous ne devez pas nous oublier. Et il s'est fait que le problème des quotas avait un peu miné la participation de la femme. Nous avons dû amener des femmes comme des experts à Sun City. Il y avait une trentaine de femmes dont nous avons reçu le financement de la coopération canadienne, la coopération suisse, de UNIFEM aussi, et nous sommes allés à Sun City. Lorsqu'on a donné un quota additionnel aux femmes, pour aller à Sun City. Toutes les femmes ont dit non, Élisée doit prendre ça. Parce que c'est elle qui nous a fait entendre. C'est elle qui est venue avec son projet et aujourd'hui, nous avons été entendus, même si on nous avait donné seulement deux places. De ces deux places, on va donner à une femme de l'Est, là où il y avait vraiment des affrontements sur le terrain, pour qu'elle vienne faire témoignage des atrocités. Et puis, des côtés de l'Ouest, on donne cette place-là à Élisée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée comme déléguée au dialogue intercongolais.
Vous avez participé même aux travaux.
J'ai participé aux travaux.
Vous avez entendre votre voix.
Oui, exactement. Et en même temps, j'ai coordonné les groupes des experts de femmes qui étaient dehors, qui ont fait un travail fantastique. J'ai encore des images, j'ai encore des sons. Dernièrement, j'ai écouté ça, j'ai dit, mais comment on a laissé tomber tous ces capitales de travail que nous avons menés les femmes pour nous mettre aujourd'hui derrière les hommes? Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment émouvant, c'était touchant.
Pourquoi ce combat des femmes, Madame Élisée Dimanja?
Le combat de la femme fait partie de la question des droits de l'homme. Ce sont des violations des droits de l'homme, tout simplement. La femme, ce n'est pas un cas à part. Nous faisons partie des droits de l'homme, parce que nous sommes des hommes aussi. Nous sommes des humains. Je préfère d'ailleurs dire les droits humains, les termes qui sont de plus en plus utilisés maintenant. Et la femme a toujours été marginalisée, elle a toujours été victime, et elle n'est pas prise en compte.
Si nous C'est-à-dire voulons... quoi qu'elle n'est pas prise en compte?
C'est-à-dire, lorsqu'elle parle, elle n'arrive pas à faire entendre sa voix. Regardez par exemple au marché aujourd'hui.
Il faut convaincre pour arriver à faire entendre sa voix.
Ce n'est pas seulement une question de convaincre.
Mais si vous n'avez pas des arguments pour convaincre, comment voulez-vous vous faire entendre?
Non, nous avons des arguments. Nous avons des arguments pour convaincre. Ce n'est pas des arguments qui manquent. Mais la politique, comme vous le savez, ce sont les hommes qui ont la majorité du pouvoir. Et c'est une question de non seulement de pouvoir, mais aussi de partage des gâteaux. Les hommes ne lâchent pas facilement, tout simplement. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas que nous manquons des arguments.
Et c'était ça votre combat, donc, que la femme soit au même niveau que l'homme.
Exactement. Et c'est comme dès là, je suis partie à l'Assemblée nationale
de la transition.
Après, nous avons dit, tiens, nous les femmes, nous restons dehors pour crier et protester. Pourquoi ne pas s'engager dedans? La Convention des Nations Unies nous dit que nous devons être à tous les niveaux là où les décisions se prennent pour prévenir les violences. Et donc, nous devons nous représenter. C'est une décision qu'on avait prise en conseil d'administration de WOPA. Beaucoup de femmes se sont présentées. Il y en a qui sont passées, il y a d'autres qui ne sont pas passées. Et moi, je me suis retrouvée dans ces lots-là. Je suis passée en 2006 comme députée. Voilà comment j'ai commencé la politique et je continue aujourd'hui.
Et comment vous expliquez l'échec des femmes quand même aux élections de 2006 et même en 2011, beaucoup de femmes n'ont pas été élues. Elles sont moins qu'en 2006 même. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est parce que la population ne fait pas confiance aux femmes ou c'est parce qu'elles ne passent pas bien leur message?
Non, je crois que c'est parce que d'abord il y a des pesanteurs culturelles et sociales. Ça, c'est un élément qu'il faut faire avec dans les temps. C'est tout un processus, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. La vision qu'on a de la femme, le rôle que la femme doit avoir, ça constitue des freins qui fait que la femme ne sait pas aller très vite au même rythme que l'homme, ça c'est de un. De deux aussi, c'est de la responsabilité de la femme. Nous sommes partis à Sun City. Nous étions le seul sous-groupe, parce qu'on n'était pas une composante, on était un sous-groupe, qui avait un cahier des charges bien établi à l'avance. Et donc nous savions qu'est-ce que nous allions demander à Sun City. Et si vous regardez, beaucoup de réseaux d'histoire de Sun City ont tenu compte de la participation de la femme, de l'aspect genre. Mais dès que nous sommes rentrés de Sun City, nous sommes entrés toutes dans le jeu politicien des hommes. Parce qu'on nous a tirés de gauche à droite et nous avons perdu l'idéal femme, la lutte de la femme. Pour aller où? Nous avons commencé à faire le jeu des hommes. Et là, lorsque la population nous retrouve derrière les hommes, pratiquant la même méthode que les hommes, elle se demande pourquoi je dois leur faire confiance parce qu'elles sont comme leurs hommes. Qu'est-ce qu'elles apportent de différent? Nous avons prétendu nous apporter la différence. C'est pourquoi nous avons dit nous devons être là. Parce que si c'est pour venir faire comme les hommes, ça ne sert à rien.
Et qu'est-ce qu'elle doit faire pour garder sa ligne, la femme?
Ça doit être une femme de principes et de valeurs. Il n'y a que ça qui doit faire la différence entre nous et les hommes. Si c'est mauvais, je dois dire que c'est mauvais. Même si je suis de la famille présidentielle, famille politique présidentielle, je veux dire, mais que le président applique une politique qui ne favorise pas la petite fille, je dois devoir dire non. C'est à ce moment-là qu'on va me respecter. On va dire, elle sait ce qu'elle veut. Mais si je dois soutenir ça parce que c'est ma famille politique, à ce moment-là, je ne fais pas la différence avec les hommes. Prenez par exemple la question de la gratuité de la scolarité pour
la jeune fille.
La jeune fille. Je dis, elle n'est pas réelle. Et nous le savons tous. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Minerval coûte peut-être 30 000 francs. Mais la contribution des parents, c'est combien? L'État ne prend plus en charge les enseignants et c'est les parents qui doivent les prendre en charge. Lorsque les parents eux-mêmes ne sont pas déjà bien payés, comment voulez-vous qu'ils prennent les enseignants en charge? La prise en charge des enseignants, c'est le minimum, c'est 150 dollars par trimestre ou 100 dollars par trimestre. Mais les parents n'ont pas ça. Même si vous enlevez les 30 000 francs du Minerval, mais la petite fille ne va pas aller à l'école. En fait, c'est passez-moi l'expression, c'est de l'arnaque hein, politique. On veut donner l'impression qu'on a fait quelque chose, mais on n'a rien fait. Mais ce dont il faut se battre, c'est les droits. Les enseignants doivent avoir leur dû, leur salaire, qui est garanti par la Constitution. Et l'État doit payer ça. C'est pour ça qu'il faut se battre, pour que la petite fille ait effectivement l'accès gratuit à l'éducation.
Alors, Élisée Dimanja, vous menez un combat non seulement pour l'émergence des femmes, mais aussi pour la bonne gouvernance. Vous êtes une femme politique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes après les élections de novembre 2011. Certaines personnes parlent même de crise qui secoue la RDC aujourd'hui. Vous êtes d'avis aussi qu'il y a une crise dans le pays aujourd'hui?
Oh, ça c'est clair et net aujourd'hui du point de vue de tous les Congolais, du plus petit au plus grand, que nous sommes plongés là dans une crise très grave qui va avoir des conséquences à long terme. C'est pas seulement à moyen, à court terme, mais surtout moi ce qui me fait peur, c'est à long terme. Parce que je me dis, c'est quoi la gouvernance de ces pays dans 10, 20 ans? Ça sera quoi? Quand je vois la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, la manière dont on a nominé les gens et n'ont pas respecté l'expression...
Vous parlez de nomination parce que vous n'avez pas été réélu ou bien...
Moi, j'ai été réélu et c'est ça ma plus grande consolation. J'ai été réélu mais je n'ai pas été nommé. Parce que pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, je crois, il y a une dame qui m'a vu, qui m'a dit « Si les femmes comme toi ne sont pas au Parlement, qui peut être encore là ?» Je dis « Ah bon ?» Il dit « Mais je suis vite et débat, Madame Dimanja. » C'est toujours des débats de haute facture. Tu vas dans les concrets et tu nous permets de réfléchir en hauteur. Mais je me dis, si tu n'es pas au Parlement, qui alors est allé au Parlement? Je dis, je ne sais pas, ceux qui sont là sont aussi valables. Il dit, non, moi je t'ai suivi ton parcours au Parlement. S'il y avait 2 femmes qui intervenaient, tu étais là. S'il y avait une femme, c'était toi. Et c'était pas n'importe quelle intervention. C'était pertinent toujours. Je te suivis sur le terrain, avec la population, dans la sensibilisation, l'éducation, dans l'assistance humanitaire, tant soit peu. Mais qu'aujourd'hui, tu ne sois pas passé. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je lui dis, madame, moi, c'est encore rien. Tu peux imaginer M. Pai Pai qui a investi chez lui. Et je peux mettre beaucoup de politiciens à défi. Qu'on aille vérifier chez eux, dans leur village, qu'est-ce qu'ils ont fait. Même pas un dixième de ce que M. Pai Pai a fait.
C'est le président de votre parti.
C'est le président de mon parti, oui. On prétend qu'il n'a pas été élu chez lui au village. Alors qu'il est notable de là. Je dis, c'est le monde à l'envers. Comprenez ce qui est passé. Et moi, ce qui me console, c'est les milliers d'électeurs qui m'ont voté, qui m'appellent pour m'encourager. Et ça, ça m'a réconforté beaucoup. J'ai des PV qui témoignent que j'ai eu des voix plus que les gens qui sont sur la liste des députés nominés. Pour... j'ai introduit mon recours. J'attends, j'espère que la justice va faire le travail.
Madame Élisée Dumanja, vous avez parlé des crises à long terme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement cette crise à long terme?
Le mal est fait et il est profond. Et je ne sais pas si notre justice va être à la hauteur pour corriger tout ce que la CENI a fait. Si déjà tu donnes l'argent pour aller à l'Assemblée nationale, ça signifie que tu ne comprends pas ton rôle là-bas. Tu n'iras pas défendre la population. Et donc tu ne vas pas défendre le pays. Parce que le pays vit à travers ses lois. Et la mise en application de ces lois, c'est ça qui fait la force d'un État. Si dans, en Belgique, vous pouvez faire plus d'une année sans gouvernement, c'est parce qu'il y a des lois et des lois qui sont mises en application et que tout le monde respecte. Et c'est là où on doit édicter ces lois-là, que vous mettez n'importe qui parce qu'il a donné l'argent ou parce qu'il est de votre famille politique. Vous voulez attendre quel résultat demain? C'est pourquoi je dis la crise, elle est profonde et elle est à long terme. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui dans notre Assemblée nationale va avoir des conséquences dans 10-20 ans. C'est là qu'on va le sentir. Nos enfants, nos petits-enfants viendront sur notre tombe pour nous chicoter. Parce qu'ils ne comprendraient pas que nous ayons fait ça, que nous ayons bradé les pays à ce point-là.
Alors, Madame Élisée Dumanja, c'est le mois de mars, un mois dédié aux femmes. Qu'est-ce que ce mois représente pour vous?
Ce mois, pour moi, représente un temps d'arrêt où la femme doit faire l'évaluation de son combat. Elle doit faire l'évaluation de son action. Elle doit faire l'évaluation de sa lutte, de son avancement, de sa participation et projeter des nouvelles orientations, des nouvelles actions pour corriger là où ça a failli et améliorer ou renforcer là où ça a été positif.
Est-ce qu'il faut attendre seulement le mois de mars pour faire ce bilan?
Non, on peut le faire à n'importe quel moment de l'année, mais le mois de mars a été symbolique à cause de la lutte des femmes ouvrières aux États-Unis. C'est de là qu'est partie la lutte de la femme, des femmes qui travaillaient dans les industries, qui étaient mal payées, qui n'étaient pas considérées. Elles ont commencé à revendiquer. C'est tout simplement par mémoire à cette lutte de ces femmes de première heure qui se sont levées, pas seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, en Europe, qu'on a dit, bon, on met au mois de mars. On pouvait le mettre en décembre, qui est fin de l'année civile, mais il y a aussi l'année comptable. Et pour d'autres pays, ça se termine au mois de mars aussi. Donc, c'est juste une repère qu'on a prise symboliquement pour honorer la mémoire de ces premières dames qui ont le courage de revendiquer.
Alors, certaines personnes sont quand même critiques par rapport à la manière dont ce mois où la journée de la femme est célébrée en RDC, on a l'impression qu'on réduit cette journée au port des pages.
Moi-même, je critique ça aussi. Et donc, les gens qui le critiquent ont totalement raison. Je partage leur argumentaire. Parce que être femme, ça ne se réduit pas à mettre le pagne. Non, c'est pas ça. Être femme, ça ne se réduit pas à défiler le 8 mars. Non, c'est pas ça. Si c'est ça, alors c'est que nous n'avons pas compris notre rôle. Nous n'avons pas compris notre combat. Parce que nous mettons les pagnes tout au long de l'année. Tous les jours du mois, nous mettons le pagne. En quoi c'est spécial le 8 mars de mettre le pagne? Moi, je ne vois pas. Ici, il s'agit d'un combat intellectuel. C'est un combat de civilisation. Donc, on ne doit pas réduire ça au port du pagne. C'est un combat pour le devenir de notre société. C'est un combat de société. Et tout combat de société a des méthodes de travail. Comme je le dis, il y a un temps d'arrêt pour évaluer, analyser, faire les suivis et projeter l'avenir. C'est ça la méthode des combats, les méthodes des luttes pour la société, pour le développement. Ce n'est pas pour rien que même dans le gouvernement, vous verrez, chaque année on demande qu'on revienne avec le budget et c'est toujours le moment où on doit regarder qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a donné comme budget la fois passée, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait et comment on améliore pour l'année qui suit. Donc ça doit être la même chose, les combats de la femme. On ne doit pas le réduire au port des femmes. Moi, je suis très critique par rapport à ça. Les gens qui font ça sont en train d'instrumentaliser la femme et surtout la petite fille en lui mettant en tête qu'elle doit mettre l'épargne. Moi, chez moi, à la maison, je refusais. Mes filles, pas question d'acheter l'épargne pour le 8 mars. Hein. Vous avez toute l'année pour mettre l'épargne, vous pouvez le mettre.
En parlant des filles, vous avez combien d'enfants?
Oh, j'en ai beaucoup.
Alors, madame Dimanja, le thème retenu cette année en RDC, c'est investir dans la femme rurale et la jeune fille pour un meilleur avenir. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un thème qui exclut un peu les femmes citadines?
Non, je ne pense pas que ça exclut. Il faut dire que la question de la femme, qui est la question du genre, c'est une question transversale. Elle touche dans tous les domaines. Et donc, on doit y aller étape par étape parce qu'on ne peut pas tout embraser en une seule fois. Ça sera difficile d'être vraiment efficace sur le terrain et d'avoir des résultats positifs. C'est pourquoi on doit y aller étape par étape. Aujourd'hui, c'est la femme rurale. Demain, pourquoi pas, ça sera la femme citadine. Encore que la femme citadine, de tout le temps, elle bénéficie, elle déjà, de l'investissement en termes d'éducation, en termes de formation, en termes de renforcement des capacités et tout, au risque même de créer un grand écart entre elle et sa sœur rurale, alors que c'est ensemble, femmes, que nous devons bâtir, nous devons participer, nous devons construire. Mais il faut aussi relever le niveau de cette femme rurale pour qu'elle comprenne. Vous savez, j'ai aimé quand je faisais ma campagne, hein. C'est pas toujours parce qu'elles ne sont pas allées à l'école, ces femmes rurales, qu'elles ne comprennent rien, qu'elles ne savent rien. Il faut leur donner parfois l'espace d'expression, vous verrez qu'elles connaissent beaucoup. Si je veux demain que cette femme-là marche pour revendiquer ses droits, il faut qu'elle sache pourquoi elle est en train de marcher et qu'est-ce qu'elle va avoir au bout de ça. Si je veux qu'on marche pour les salaires du fonctionnaire, et que je mobilise les femmes, elle doit comprendre. Parce que si son mari a un bon salaire, ça va lui épargner, elle, la corvée de se réveiller tous les jours à 3h du matin, aller chercher les pains pour vendre et tenir le bout du mois de son foyer. Ça va lui éviter d'aller au champ du matin au soir. Elle va le faire, mais ça sera compensatoire à ce que le mari gagne. Mais aujourd'hui, tout le poids repose sur la femme. Pourquoi? Parce que le mari n'a plus de salaire. Aujourd'hui, nous avons des mamans qui prennent leurs garçons en charge jusqu'à 40, 50 ans, ils sont à la maison. Parce qu'il n'y a pas du travail. Il n'y a pas de salaire. Et ça, c'est grave. Donc, il faut relever le niveau de cette femme-là pour qu'elle comprenne l'enjeu, c'est quoi. Et pour des questions économiques comme celle-là que cette maman a posée, il faut lui dire que dans la production du légume, il y a des éléments qui entrent indépendamment de la route. Il y a des engrais que vous utilisez, il y a les carburants que vous utilisez, parce qu'on doit transporter ces légumes de leur lieu de production au lieu de vente. Tout ça, là, ça fait que ça augmente la valeur de ton légume quand tu dois le vendre. Encore que, il y a une qui m'a dit, oui, mais carburant, dans le monde entier, on n'a pas augmenté les prix à la station. Pourquoi ici chez vous, vous augmentez toujours? Ça, il faut lui dire, c'est une question de gouvernance. Il faut regarder quelles sont les taxes que l'État met sur le dos de ces pétroliers qui font qu'eux, ils augmentent les prix, tout ça. Donc, elles savent ce que c'est. Mais c'est question de structurer leur pensée maintenant. Et qu'elles comprennent les moments venus qu'il faut se mobiliser, elles doivent s'élever aussi pour participer à la lutte, pour améliorer notre vécu quotidien.
Élisée Dimanja, vous arrive d'écouter la musique?
Oh oui.
Quel genre de musique vous écoutez?
Oh, les tout, la musique chrétienne, la musique, j'aime pas tellement les termes, on dit profane, non, mais moi j'écoute du tout. J'aime bien le vieille chanson des Taboulés, le vieille chanson de Loké Jazz à l'époque, je les aime bien. Et j'aime aussi la musique chrétienne de notre frère Alain Moloto, les groupes Adorons l'Éternel. Ça me permet de me replonger dans la méditation, la prière, parce que je suis chrétienne.
Alors, un titre d'une chanson qui vous vient à l'esprit comme ça, de Taboulé ou un vieux succès, pour votre plaisir?
Bolingo yangana yo, ezalinde bolingo yanzambe. Éminence, voilà. Éminence.
Ah, d'accord, voilà.
Parce que c'est la chanson, les jours de mon mariage, qu'on a mis pour la sortie, mon mari et moi.
Ah, d'accord, on va vous faire plaisir, madame Élisée.
Bako bomanga ipona yo mwani, na ebi eloko nana salite. Na avance la nyo sona kolega, bako la kisanga semisa timwa na mape. Na komituna, eloko nini na zia moto, na linga eko malika mo. Bande la nanga nyo so eko miya makambo, bako kana kana kana. Makambo yo sona kota la wana motili, eko mitaka tepi ya moto nyo so. Zambi, kaina kotu na tina, na epa na anike kisa. So
De notre entretien, un mot à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment partout dans le monde et partout en RDC. À l'occasion du mois de la femme, quel message vous apportez, vous donnez à ces femmes?
Le message que je pourrais dire en quelques mots, c'est femme, lève-toi, implique-toi dans ton foyer et implique-toi aussi dans la nation, dans la gestion de la nation. De la même façon, tu t'impliques dans ton foyer pour que ça marche, que tes enfants aient la bonne éducation, que tes enfants aient à manger, que ton foyer soit stable, que ton mari soit bien. Implique-toi sur base de ces valeurs et de ces principes au niveau de la nation et tu feras la différence avec les hommes. Ce pays sera sauvé. L'avenir de ce pays est entre tes mains, femmes.
Madame Élisée Dimanda, je vous remercie.
Merci, Madame Kelly.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Élisée Dimanda César. Elle est députée honoraire, femme politique, militante de droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance. Merci à Alain Goy qui est à la technique au micro. Kéline Couté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix. Bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment.